Nous sommes en compagnie de Dilip Varma, cinéaste, caméraman et directeur photo de pas mal de longs métrages et de documentaires et aussi de séries télévisées. Dilip Varma est né à Calcutta et c'est un grand connaisseur du cinéma indien. Ceux qui ont vu Londres bombée au Fresnois l'automne dernier ont donc vu ces images en tout cas. Mais je l'ai invité dans Bruit de Chine au titre de sa participation au jury du 13e festival du cinéma d'Asie de Vesoul où ont été présentés un certain nombre de films chinois. Alors Dilip Varma, quelle est aujourd'hui la vitalité du cinéma asiatique et particulièrement du cinéma chinois ?
De toute façon, c'est aujourd'hui quand on regarde surtout dans les festivals, parce que bon, le cinéma asiatique n'est pas encore tout à fait dans toutes les salles partout en Europe, mais quasiment tous les grands pays asiatiques où on fait des films, comme l'Inde, la Chine, il y a deux sortes de cinéma. Il y a le cinéma commercial et après il y a le cinéma d'art et essai ou le cinéma parallèle. Et on a plutôt tendance à voir ici des grands films, plutôt genre Hollywood qui arrivent sur nos écrans en France. Il y a un cinéma très très actif, mais très divers aussi, parce que tous ces grands pays sont aussi des pays avec plusieurs langues, plusieurs régions, qui produisent des films dans les langues et des couleurs tout à fait locales. Et c'est que dans les festivals comme le Festival de Vesoul, qui est un festival des films asiatiques, qu'on voit vraiment la portée de cette création.
Alors, cinéma indien, cinéma chinois, il y en a un qui commence à monter sérieusement, c'est le cinéma chinois, alors que le cinéma indien est quand même très bien installé dans le paysage mondial. Est-ce que vous pensez que dans quelques années, ils seront à égalité ?
Je pense que, vu d'Europe, le cinéma indien a... est vu d'une manière assez particulière. Parce que moi, mes copains ici en Europe, je suis en Europe depuis un petit moment, me disent qu'ils ne voient pas grand-chose de cinéma indien. Et oui, c'est dans un certain sens vrai. Mais ils pensent, parce qu'on ne les voit pas ici, qu'on ne les voit nulle part ailleurs. Et ça, ce n'est pas vrai.
Ça, c'est une erreur, ça, voilà. Effectivement. C'est peut-être dû au côté anglo-saxon des choses. Les films indiens sont en anglais, donc le monde anglo-saxon...
Non, pas vraiment. Les films indiens sont en hindi.
Voilà. Déjà. Surtout, voilà une idée reçue.
surtout le cinéma commercial. Mais, d'une certaine manière, le cinéma indien n'a pas très fortement essayé de s'installer en Europe ou aux États-Unis, essentiellement parce que partout dans le Maghreb, des grandes parties d'Afrique, même jusqu'à les années 50 en Chine et un peu plus tard en Russie, le cinéma indien s'est exporté super bien.
Oui, c'est ça, oui.
C'est-à-dire que pas seulement ça a passé comme un passerelle culturelle, mais je pense que ces films faisaient de l'argent dans ces pays parce qu'il y avait énormément de monde qui allait voir ces films. D'ailleurs, moi je me souviens, j'avais rencontré une artiste chinoise il y a quelques années à Paris et elle m'a chanté une chanson d'un film indien très connu qui s'appelait Awara, d'un cinéaste qui s'appelle Raj Kapoor. Et elle m'a chanté toutes les chansons. J'étais mais vraiment époustouflé.
Ça veut dire aussi que les Chinois s'intéressent au cinéma indien. Alors, au Festival de Vesoul, qu'est-ce que vous avez vu comme film chinois ?
Bon, j'ai vu plusieurs films chinois. D'ailleurs, c'était très très intéressant parce que je faisais partie du jury international. Et le président du jury, c'était un grand cinéaste chinois qui s'appelle Xi Fei, et qui est un cinéaste de quatrième génération. D'ailleurs, il y a des Chinoises avec nous dans le studio, et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça veut dire, parce que j'ai un peu de mal à comprendre les générations des cinéastes.
Alors, qui veut répondre à cette question ? Lee Joon ?
Je sais pas si je suis capable, mais en fait, comme par exemple Zhang Yimou et Chen Kaige, c'est plutôt la troisième génération, je crois. Et avant, je connais pas la première et la deuxième, mais c'est à partir de la troisième génération de réalisateurs qu'ils ont été connus.
Oui, mais génération à partir de quoi?
À partir de création ou leur...
Il y a une histoire de date, j'imagine.
Oui, à partir de l'année 80, je crois. Ah. Après la révolution culturelle.
Voilà qui est plus
c'est
clair.
C'est là tout c'est...
C'est la révolution culturelle, c'est à partir
après,
de là, donc.
Après.
Donc,
après
voilà, c'est ça. Donc,
je crois que...
C'est donc, les jeunes d'aujourd'hui, c'est la cinquième génération, je crois.
Sixième.
Voilà. Ouais. C'est comme les périphériques à Pékin, ça va de plus en plus vite.
Tout en fait, de plus.
C'est le même nombre, d'ailleurs. Six périphériques, six générations de cinéastes. Alors, donc, ces films, vous avez vu, donc, quatrième génération.
C'est-à-dire, j'ai vu en compétition... Un film, je ne connais pas le titre en français, mais c'était titré en anglais, Bliss. Et c'est un film de Sheng Zimin. Et c'était un premier française. Et pour moi, c'était très très intéressant de savoir que finalement, lui, cinéaste de sixième génération, est un ex-étudiant de Shifei.
Ah.
qui enseigne dans l'Institut cinématographique de Pékin.
Oui, bah, c'est toujours le même. Ce film était intéressant en quoi ?
C'est un film de jeune génération et c'était intéressant parce que j'ai pu le voir aussi. On en a parlé un petit peu d'autres choses. On a parlé de son deuxième long métrage et la manière quand on aborde. Les techniques, c'était très très intéressant. Mais ce film-là, il est tourné en 35 d'une manière tout à fait classique.
Mm-hmm.
Sauf que on voit que aujourd'hui, on commence à aborder les difficultés des gens en Chine. Et mm-hmm. c'est dans ce sens-là que c'est intéressant. C'est-à-dire, ce n'est pas on ne critique pas directement la société, mais on montre...
Telle qu'elle est.
Plus que ça, qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur des gens qu'on ne peut plus ignorer.
Mm.
Qui n'était pas le cas dans les années 50.
Oui, et même après.
Il y a eu un certain regard un peu monolithique sur qu'est-ce que les gens doivent faire ou comment ils doivent se présenter. On ne voulait pas trop en parler de qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Et si on parlait des choses qui passaient à l'intérieur, c'était plutôt des sentiments héroïques.
Mm. Oui.
Là, il n'y a aucun personnage dans ce film qui n'a pas des états d'âme, plutôt vers le négatif.
Alors finalement, c'est l'intrusion de l'état d'âme dans le cinéma chinois.
Oui, je pense.
Si on devait résumer. Alors vous avez vu aussi un film de Hong Kong.
Oui. Voilà, pareil, moi je pense que tous ces films, ils ont des sous-titres anglaises,
oui.
Parce que ça, c'est un peu plus passe-partout.
C'est plus facilement exportable.
Voilà, et celui-là s'appelle « My mother is a belly dancer ».
Mais ça, ça va en français, on peut facilement traduire.
Ça, dans toutes les langues, hein, je pense. Et c'est une co-réalisation de Ching Po Wong et de Kung Lok Lee. Et c'est le cinéma chinois de Hong Kong. D'ailleurs, ça c'est un des trucs qui m'a frappé depuis 2-3 ans. Que quand on parle de cinéma chinois, moi je suis incapable de penser de cinéma chinois sans penser des films de Taïwan, des Républiques populaires et de Hong Kong.
Oui.
Et je pense que c'est ça la richesse du cinéma chinois, s'ils arrivent à accorder leur violon à un moment.
Mmh. Si.
Est-ce qu'il y a une différence, une vraie différence entre le cinéma de Hong Kong et le cinéma chinois ?
Bah, d'abord, c'est le langage.
Ah, Lee Joon ?
À Hong Kong, les films se présentent plutôt en cantonais et en République chinoise, c'est le mandarin.
Bon, à part la langue, est-ce que le fond est différent? Parce que la langue, nous, on ne va pas le voir. On ne va même pas l'entendre. Donc, est-ce que c'est un cinéma différent, une façon de filmer différente, des histoires différentes?
Je pense oui et non. Comme toujours dans ces trucs-là, c'est très difficile de dire oui ou non. Mais si on prend des exemples concrets, ça devient plus facile à comprendre. Moi, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de cinéaste en Chine populaire qui peut faire des films comme Wong Kar-wai.
Mm-hmm. Voilà, donc ça c'est clair.
C'est l'exemple même. Après, je pense que à Hong Kong, il y a une tradition de films commerciaux et de films d'arts martiaux. Et dans ce domaine-là, je pense que le Chine populaire est en train de regarder un petit peu comment c'était fait à Hong Kong et comment ce savoir-faire peut être exploité pour la commercialisation de films chinois. Et dans ce sens-là, il y a un vrai... comment dire, similitude. D'ailleurs, de temps en temps, quand on voit des représentations, même des moines de Shaolin, un peu partout dans le monde, on voit bien que la mise en scène est plutôt des films de combat de Hong Kong.
Oui, c'est ça. Oui. Il y a un côté plus commercial. Alors, vous avez vu aussi tous les films de Wu Tianming,
oui,
parce qu'il était, bah, il était l'invité d'honneur, non?
Cette année, oui.
Cette année, il était l'invité d'honneur et il a même eu le Cycle d'or d'honneur.
Oui, c'est
donc
ça.
Une des récompenses, enfin la plus haute récompense du festival du film de Vesoul. Alors, puisque vous avez vu tous ces films ou presque, qu'est-ce que vous en
pas
diriez
tout. Pas tout. J'en ai vu vraiment trois. La rivière sauvage, Le roi des masques et Le vieux puits.
Alors, sur ces trois films, ils ont quelque chose de marquant?
Oui, mais moi je pense que ça serait intéressant de parler de personnages avant de parler de ces films, parce que c'est quelqu'un de assez impressionnant et quelqu'un de très très bonne humeur. C'était assez drôle parce qu'on était dans le même hôtel et je le voyais tous les matins au petit déjeuner. Et comme moi, je ne parle pas chinois et lui ne parlait pas anglais...
Ah, c'est intéressant, effectivement.
On avait quelqu'un qui interprétait, on a pu échanger quelques mots. Mais bien sûr, c'était beaucoup plus intéressant de regarder ses films. Lui, il est... on l'appelle... de père de cinquième génération.
D'accord.
Parce que il a eu une carrière multiforme, protéiforme, vraiment énorme, parce qu'il a commencé comme acteur. Mais quand on lui a posé la question à Vesoul, il a dit « Moi, je voulais toujours être réalisateur. » Mais j'ai eu peur au début. Et comme où j'habitais, il y avait la possibilité de faire... un cours d'acteur, j'ai commencé avec ça.
Bah, c'était pas une mauvaise idée.
C'était pas une mauvaise idée parce que en plus, il a le manie de apparaître dans tous ses films.
Ah.
Toujours. Mais c'est pas Hitchcock. Hein. Hitchcock, il faisait une apparence un peu rapide. Lui, il a toujours quelques mots aussi.
Oui, un vrai petit rôle, quoi.
Un vrai petit rôle, mais petit. Et il est génial parce que pour son âge, il a l'air d'être un jeune homme.
Donc il a quel âge à peu près, dans les 70?
Il est né en 39.
Ah oui.
Hein?
Ah oui, tout de même.
Oui.
Effectivement. Le père de la cinquième génération, évidemment.
Oui, père de la cinquième génération parce qu'il a été le directeur d'un des studios dans le nord-ouest de la Chine. Et c'est lui qui a donné les premières chances à Zhang Yimou, à Chen Keg.
Ah oui,
parce que quand on regarde la carrière de Wu Tianming, il y a une partie réalisateur, il y a une deuxième partie producteur.
Oui, d'accord.
Et
alors, Vous avez vu aussi, donc à part Wu Tianmin, vous avez vu aussi Le voleur de chevaux de Tian Chuang Chuang.
Oui.
Ça, c'est mal prononcé, mais tant pis. Donc Le voleur de chevaux, c'était intéressant?
Oui, très intéressant. Ça, c'est un film que, sur lequel Wu Tianmin était producteur. Et c'est un film qui est difficile. Moi, je pense que n'importe où dans le monde, trouver de l'argent pour faire un film comme ça aurait été dur.
Mais il est arrivé. Parce que c'était la Chine.
Parce que c'était la Chine, et moi je pense parce qu'il y a le courage de Wu Tianmin. Parce qu'on voit, même dans... Parce que, pardonnez-moi, je n'ai pas vraiment répondu sur la question des films. Et on voit que dans les films de Wu Tianmin, il a très vite, c'est un des premiers cinéastes en Chine qui commence à être critique vers comment les choses passent en Chine après la révolution culturelle. Mm-hmm. C'est-à-dire, on dit que le vrai fin de révolution culturelle, c'est vers 1979. Il est directeur adjoint de ce studio. Je ne prononcerai pas le nom parce que...
Bon, il est directeur du studio, ok.
Oui, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Et à partir de 84, il est directeur. Et c'est lui qui fait... On l'appelle père du cinquième génération parce que c'est lui qui a fait passer tous ces cinéastes faire leur... premier film.
Donc il est responsable de l'ouverture finalement.
Voilà.
Alors comme l'heure tourne tout de même, j'ai un œil rivé sur le sur l'horloge là. Vous avez vu aussi un documentaire français qui, je crois, vous a beaucoup intéressé, de Jean-Yves Cochard, qui s'appelle Made in China.
Oui.
Donc ce qui prouve aussi qu'au Festival des cinémas asiatiques de Vesoul, il y a des réalisateurs chinois, enfin ou indiens ou en majorité, mais il peut y avoir aussi des documentaires étrangers. Alors ce documentaire.
C'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est un document de une trentaine de minutes. Et il y a une sensation de sympathie dans ce film qui est absolument superbe. On parle d'une famille qui s'est endettée, une famille de paysans, et qui doit partir dans une grande ville pour aller travailler sur toutes ces nouvelles industries où les gens travaillent à la chaîne.
Oui, les fameux Mingong, en fait.
Voilà.
Ça, c'est vraiment la Chine contemporaine et c'est le drame de la Chine d'aujourd'hui.
Voilà.
C'est vraiment le drame de la Chine d'aujourd'hui.
Et je trouve que le réalisateur de ce film a vraiment eu un contact très, très étroit avec ces personnages. C'est un couple qui part de chez eux et qui ne peuvent plus revenir, parce qu'ils ont des enfants qui ont 8 et 6 ans, qui restent avec les grands-parents, et ils sont tellement endettés que pendant 2 ans, ils n'ont pas l'argent pour revenir à la maison. Et le film montre, justement, le retour à la maison, qui va durer 4 jours, après un voyage de quasiment 1500 kilomètres. Aller 1500 km retour.
Bon.
Et ils n'ont pas les moyens pour rester plus de 4 jours avec ces deux petits-enfants avant de repartir travailler.
Ah oui, effectivement, ça paraît difficile comme sujet.
Très dur.
Alors bon, on espère pouvoir voir... C'est pas facile de voir des documentaires comme ça après. Il s'est passé à la télévision, je crois. J'ai vu que c'est passé il y a quelques mois. Et puis c'est tout, après...
Oui, c'est dommage parce que en plus... C'est un film qui a été produit dans le Nord.
Il faudrait un DVD.
Oui.
Par exemple.
Oui.
Ça a été produit dans le Nord. Le Crave est dans le...
Le Crave n'y était pas sur celui-là, mais c'est une production de Nord qui a travaillé. Je pense que c'est le...
Il y a Ikari Production.
Ikari Production.
Oui, c'est ça.
C'est une production qui travaille à Lille.
Oui, tout à fait. Ben, j'espère peut-être qu'on pourra les recevoir ici pour qu'ils parlent du film et peut-être le réalisateur.